Intéressé aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.
Bonjour, ici Bruno Laberge pour CKIA FM et voici votre bulletin d'information du vendredi 1er mars 2024. L'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, s'est éteint hier à l'âge de 84 ans, a annoncé sa fille Caroline Mulroney sur les réseaux sociaux. Monsieur Mulroney est à l'origine des accords de libre-échange en 1989 et l'accord de libre-échange nord-américain en 1992. Celui qui a été le 18e premier ministre du Canada est aussi l'architecte de deux accords constitutionnels, celui du lac Meech en 1987 et celui de Charlottetown en 1992. La semaine dernière, la Fondation Age, qui a pour mission de préserver l'autonomie et d'améliorer la santé et la qualité de vie des aînés avec la gériatrie sociale, lançait une nouvelle plateforme « Agir pour bien vieillir ». Le docteur Stéphane Lemire, interniste, gériatre et président fondateur de la Fondation, nous explique ce qui en est.
Une plateforme comme ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce grand objectif là, d'aider les gens à s'adapter à la réalité du vieillissement, mais pas en mettant sur le dos du vieillissement tout et n'importe quoi.
Quel rôle aura la plateforme Agir pour bien vieillir? À nouveau, le docteur Lemire.
Ça vise à rendre disponibles nos outils de gériatrie sociale, mais aux proches aidants, d'amener notre formation vers les proches aidants et les aînés eux-mêmes. Donc, redonner le pouvoir d'agir aux gens par rapport à leur vieillissement.
On accède donc à la plateforme en se rendant à agirpourbienvieillir.com et on écoute l'entrevue complète au ckiafm.org, onglet Actualité. En février, le Squat Basseville a célébré ses 25 ans d'existence dans Saint-Roch. Le Squat accompagne les jeunes vivant un ou plusieurs aspects de l'itinérance. Des besoins de plus en plus grands et de plus en plus lourds se font ressentir, constate Véronique Girard, directrice générale du Squat Basseville. Dans les dernières semaines, on a ouvert la liste d'attente pour la maison d'hébergement. Ça faisait vraiment longtemps que ce n'était pas arrivé. Aussi, on garde à l'intérieur des jeunes réveillés qui auraient été à la rue cette nuit-là parce que les lits sont pleins. On va les envoyer se coucher quand les autres jeunes vont se lever. Pour en savoir plus sur le Squat Basseville et contribuer à leurs efforts, on se rend au squatbv.com. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Thank you. en toute simplicité. Le temps n'est que le flux dans lequel je vais pêcher. J'y bois, mais tout en y buvant, j'en bois le fond sableux et je perçois à quel point il est proche. Son fin courant de surface s'écoule et file, mais l'éternité demeure. J'aime boire en puisant plus profond, pêcher dans le ciel dont le fond est parsemé d'étoiles scintillantes. Je ne puis en compter une. J'ignore quelle est la première lettre de l'alphabet. Je regrette depuis toujours de ne plus être aussi sage que je l'étais le jour de ma naissance. L'intellect est une lame qui scinde. Il discerne et taille son chemin dans le secret des choses. Je ne désire pas être plus occupé avec mes mains que nécessaire. Ma tête est elle-même mains et pieds. En elles sont concentrées, je le sens, toutes mes meilleures facultés. Mon instinct me dit que ma tête est un organe fait pour creuser, comme certains animaux creusent leur terrier avec leur museau et leurs pattes. Et j'aimerais, avec elle, progresser en m'ouvrant des galeries à travers ces collines. Je pense que le filon le plus riche se trouve quelque part dans les proches environs. Par ma baguette de coudrier et par le mince filet de vapeur que je vois s'élever, je décrète qu'ici est le bon lieu. C'est donc ici que je commencerai à creuser mon filon.
Impossible d'écrire bien et sincèrement si on ne fait pas dans la joie. Le corps, les sens doivent travailler avec l'esprit. L'expression est l'acte du corps tout entier. Que notre parole soit parcourue de vaisseaux. L'intelligence est impuissante à exprimer la pensée sans l'aide du cœur, du foie et de tous les membres. Je sens souvent que ma tête se dresse trop sèche, alors qu'elle devrait être immergée. Un écrivain, un homme en train d'écrire, est le scribe de toute la nature. Il est le blé, l'herbe et l'atmosphère en train d'écrire. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume et le vent porte ses pages aussi loin que je vais.
J'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie, j'ai devant à l'autre. Je veux des terres d'accueil pour l'exilé. Je veux des matins de liberté. Liberté, couleur et rose. Je veux qu'on fonde des broussailles, des chants d'amour qui s'élèvent. Je veux des terres cultivables pour l'espoir. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va avoir un invité, Jean Désy, le poète, écrivain, médecin, explorateur du monde et du Nord, et aussi qui organise, il enseigne à l'université la littérature à des étudiants de médecine. Il va nous parler de ses camps en nature qu'il fait avec ses étudiants, camps littéraires. Mais avant ça, j'ai ma petite revue de presse et quelques annonces à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai dans le Devoir de lundi dernier, article de Louis-Gilles Francœur, l'ancien chroniqueur d'écologie, on peut dire, du Devoir, et qui parle des... le titre de l'article, c'est « Développer une production hybride des réservoirs hydro-québécois ». Les grandes surfaces font d'excellents puits d'énergie éolienne comparables à ceux qui sont exploités en mer. Alors, il nous explique dans son article que les réservoirs que Hydro-Québec a créés là, pour ses barrages pourraient être utilisés ou mieux utilisés si on y installait des éoliennes. D'abord, pour le vent, semblerait que c'est très, très venteux, puis ça permettrait de préserver les territoires, les autres territoires qui sont sauvages, qui sont laissés à la nature. Alors, c'est un article que je trouve très intéressant. On n'en entend pas beaucoup parler de cette idée-là. Puis, il semblerait qu'il y a un potentiel énergétique énorme d'éolien, énorme dans les bassins hydrographiques d'Hydro-Québec. Alors, c'était dans le Devoir de lundi, le 26 février. Ensuite de ça, dans le Devoir de jeudi, hier, 29 février, garder des écoles dans le noir lors de l'éclipse, vraiment. Alors, on le sait, là, dans un mois, il va y avoir l'éclipse. Ça va être tout un événement naturel incroyable. Et puis, il faut faire attention, il ne faut pas regarder le soleil. Et ça effraie beaucoup de commissions scolaires qui vont fermer les écoles. Puis l'article, c'est un article de Pierre Chastenay, l'auteur est astronome, communicateur scientifique et professeur titulaire de didactique des sciences à l'UQAM. Il dit lundi, le 8 avril prochain, en milieu d'après-midi, le sud du Québec sera témoin d'un phénomène rare et spectaculaire, une éclipse totale du soleil. La dernière de ce type visible en nos contrées avant l'an 2106. Donc, c'est on sera plus là probablement en 2106. Là. on pourrait croire qu'un tel événement serait souligné par les écoles et les centres de services scolaires de partout dans la province qui en ferait un moment d'apprentissage scientifique dont les élèves se souviendraient longtemps. Mais la réalité est tout autre. Plusieurs commissions scolaires ont plutôt décidé de s'en laver les mains en fermant les écoles cette journée-là, décrétant un congé pédagogique spécial au nom de la sécurité des élèves et de l'apparente difficulté d'observer l'éclipse sans danger. En tout cas, c'est un article que je vous recommande dans Le Devoir d'hier. Puis oui, il y a aussi des mises en garde. On nous donne même une adresse Internet pour nous, pour tout le monde, dans le fond, que je trouve pas. Ça, c'est dans l'article quelque part. Mais tout ça pour dire que il faut faire attention. Même, il nous dit d'éviter d'acheter des lunettes pour les éclipses en ligne parce que on ne sait pas si ces lunettes-là sont sécuritaires. C'est vraiment dangereux d'observer l'éclipse avec les yeux, mais en même temps, il ne faut pas en faire une paranoïa là, extrême en empêchant les élèves d'aller à l'école. Au contraire, c'est que lui, même les scientifiques prétendent que c'est une occasion éducative importante, puis tout simplement, il faut l'encadrer, cette journée-là, pour les jeunes, et pour nous aussi, là, malheureusement, je vais le retrouver là, durant l'émission, le lien, pour nous aussi, parce qu'il faut être prudent, là, tout le monde, pour cet événement-là du 8 avril. Il y a dans Le Devoir d'aujourd'hui la chronique de José Blanchet, le tokenisme en jouant au golf, les lois de la nature appliquées à l'homo cretinus. Et Madame Blanchet est très pessimiste par rapport au changement climatique parce qu'elle dit que les efforts à faire sont énormes si on veut y arriver. Et le tokenisme, qu'est-ce qu'elle dit? Le tokenisme, finalement, c'est des petits gestes qui sont pas négligeables, qui sont bons, mais les changements qu'on doit faire sont tellement énormes que c'est comme une goutte dans l'eau. Là. Alors, par exemple, remplacer toutes nos vieilles ampoules par des ampoules DEL, là, c'est minuscule. C'est 80 réduction des gaz à effet de serre en kilogrammes. C'est 90 kilogrammes de CO2 par année. Éviter le gaspillage alimentaire, 155 kilogrammes de CO2. Devenir végétalien, c'est 850 kilos, qui est déjà un peu mieux. Vivre sans voiture, là, on commence à tomber dans des grosses actions, c'est 2000 kilos. Et le champion pour l'économie de l'énergie, réduire les émissions, c'est de ne pas prendre l'avion. Éviter le vol, ici, c'est un article qui vient d'Europe. Là. Madrid à Rio de Janeiro, c'est 5000 kilos, 5 tonnes de CO2. Alors, c'est un bon article que je vous recommande dans Le Devoir d'aujourd'hui de José Blanchet. Ensuite de ça, il y avait aussi dans Le Devoir, là, je recule un peu, Le Devoir du 9 février, vendredi 9 février, le Québec, bon élève du bien-être en façade. La province fait bonne figure dans ce domaine selon bon nombre d'indicateurs, mais le collectif G15 presse d'aller au-delà de la comparaison avec l'Ontario et son PIB. C'est que le Québec est un des endroits en Amérique du Nord où on a le meilleur climat pour la qualité de vie. Et pas de climat, je parle pas du climat, mais je parle de ce qu'on a. Entre autres, c'est notre filet social qui nous aide beaucoup. L'endroit le moins inégalitaire en Amérique du Nord. Puis, cette qualité-là qu'on s'est donnée, qu'il faut préserver, cette qualité de vie, ces mesures-là qu'on s'est données, ben ça permet l'émergence des valeurs post-matérialistes. C'est ce dont on a parlé cette semaine à notre cercle de discussion avec M. Michel Pigeon qui est venu animer ce cercle de discussion-là sur les valeurs post-matérialistes. Et des valeurs post-matérialistes, ben c'est là qu'on a l'émergence, par exemple, du mouvement de simplicité volontaire. C'est qu'on... finalement, dans des contextes où on se sent en sécurité, où notre survie n'est pas remise en question, ces sociétés-là permettent l'émergence de valeurs post-matérielles. Et alors, c'est ça, dans le devoir du 9 février dernier, ben on explique qu'effectivement, le Québec performe assez bien. On a des choses à améliorer, évidemment, mais quand même, il faut se féliciter pour ça. Ensuite, dernière chose, je suis allé voir un très beau film que je vous recommande qui s'appelle « Les jours parfaits »,« Perfect Days », du cinéaste allemand Wim Wenders. C'est un film qui en japonais, avec sous-titres français, mais c'est un film qui est tellement zen, qui est tellement méditatif. C'est vraiment un film sur la simplicité volontaire, qu'il y a très peu de dialogue, mais ça fait que c'est pas dérangeant, même que c'est pas désagréable d'entendre parler japonais. Et ça se passe à Tokyo. Alors, en même temps, ça nous permet de visiter Tokyo sans avoir d'émissions de CO2. Et l'histoire, c'est un type qui nettoie les toilettes de Tokyo. Puis, ce qui est quand même un peu spécial à voir, c'est que les toilettes publiques à Tokyo, Tokyo a fait un concours d'architecture, puis ils ont fait construire une dizaine ou une douzaine de toilettes publiques qui sont vraiment belles. Alors, on voit chacune de ces toilettes-là que le nettoyeur de toilettes va nettoyer. En tout cas, c'est un beau film sur la simplicité volontaire. C'est ça. Alors, la critique du film était dans le Devoir du 9 février dernier. Dans la populeuse et bourdonnante ville de Tokyo, Hirayama mène une existence volontairement en retrait, nettoyeur de toilettes publiques. Il habite un modeste appartement affichant un complet dénuement. Taiseux, routinier, Hirayama nourrit plusieurs passions en solitaire, l'horticulture, la musique, la photo et la lecture, avec le méditatif et poétique « Perfect Days » en lice pour l'Oscar du meilleur film international. Wim Wenders offre l'un des plus beaux longs-métrages. Et l'acteur, M. Hirayama, bien, il a gagné à Cannes le prix du meilleur interprète, meilleur acteur. Alors, c'est un très beau film que je vous recommande, qui est en salle. Je ne sais pas s'il va rester longtemps, puis c'est pas le genre de film commercial, mais pour voir quelque chose de très beau, méditatif, je vous recommande ce film-là. Ensuite de ça, oui, il y a justement Jean Desi, notre invité, va nous en parler un peu. C'est que la série sur le bonheur naturel, le bonheur naturel brut, BNB, bonheur national brut, du cinéaste Hugo Latulippe, qui est disponible en ligne, qu'on peut regarder. Puis c'est une série, on pourrait dire, sur la simplicité volontaire. Donc, je vous invite à aller voir ça. De toute façon, on va en parler avec Jean tantôt. Donc, je termine ma petite revue de presse là-dessus. Et au retour, on va discuter avec notre invité Jean Desi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, When it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul.
C'était Lou Reed, une Perfect Days. Et pourquoi j'ai passé cette pièce de musique-là, c'est que c'est fait partie de la trame musicale du film Jour parfait, parce qu'il y a une belle trame musicale. Le personnage est sympathique. Il est le contraire de quelqu'un de techno. Il a installé dans son camion un lecteur de cassette 8 pistes et puis il écoute de la musique. Quand il voyage d'une toilette à l'autre, il écoute de la musique dans son camion, puis c'est quelqu'un qui nous montre comment être heureux, comment bien vivre simplement. Et voilà, c'était la pièce Perfect Days, qui est probablement d'où le titre du film. Donc, on est avec Jean, et justement, Jean Désy. Et qui me disait que c'est Bonheur intérieur brut, le nom de la série avec Hugo Latulippe. Alors, bonjour Jean.
Allô.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Puis donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de tes expériences de camp littéraire avec tes étudiants dans ton domaine. Je ne sais pas si on peut appeler ça ton
c'est
domaine.
C'est sûrement pas un domaine, là. C'est une cabane que j'ai bâtie avec mes fils il y a 30 ans, là,
okay.
Sur le bord de la rivière Bras-du-Nord, mais dans la coopérative Bras-du-Nord.
Okay.
Ça fait à peu près 25 ans qu'il y a une coopérative de plein air, à 25 km au nord-est de Saint-Raymond-de-Portneuf. Okay. Et là, j'ai la chance d'avoir un camp, mais c'est un camp, là. Il n'y a pas d'électricité, c'est une cabane de 16 par 16. Mais J'y vais depuis longtemps. J'y vais souvent. J'ai une coloc qui vit à Montréal, qui a adopté un enfant inuit, qui partage la cabane. Et depuis 5 ans et demi, 6 ans, j'ai l'extraordinaire joie de pouvoir y aller 3-4 fois par année avec 8, 10, 12, 14 étudiants qui ont toujours à peu près dans la vingtaine, qui sont pas toujours en médecine, mais souvent, parce que c'est eux qui m'ont demandé d'organiser des camps littéraires de brousse. C'est que j'en organise un là, au mois d'avril. Là. Il y en a 10 déjà qui sont intéressés. Là. Il y a un coordonnateur, un jeune homme là, qui s'occupe de ça depuis sa charge de coordination. Mais ça me donne des joies intenses parce que en nature, dans le bois, pas très loin de Québec, à peu de frais, parce que souvent les étudiants couchent dans des tentes, dans leurs tentes. Parfois on loue une yourte parce qu'il y a plein de yourtes là, dans la vallée. Ben là, on fait une 48 heures d'activité. Sans Wi-Fi, il n'y a pas de signal. Puis du vendredi soir au dimanche après-midi. Et c'est centré aussi sur des excursions, mais l'écriture. C'est que j'anime toujours 1, 2 ou 3 ateliers d'écriture dans le bois, quelle que soit la saison, même en janvier. Et après ça, le soir, avant souper ou après souper, on lit les textes, on les partage. C'est que ça fait une activité en nature, en groupe, avec des étudiants que j'aime beaucoup. Et, règle générale, c'est remarquablement harmonieux. Puis en toute simplicité volontaire, oui, parce que on fait ça à pied, parfois en raquette. J'ai fait 2 camps de canot, 2 journées de canot au lac Montauban, qui n'est pas très loin, depuis quelques années. Toujours avec le but d'aller écrire, d'aller créer, de faire ça autour de la poésie, même si ces étudiants-là sont en général pas des écrivains. Mais les textes produits en nature sont, selon moi, remarquablement bon, plus que bon. Il y en a qui sont excellents, publiables, mais dans un état d'esprit de coopération, d'affection. En fait, la joie que moi je vis là, c'est une joie que j'ai ressentie toute ma vie avec la vie scout. Je me sens comme un chef scout. Je reproduis ça. Puis c'est mes étudiants puis mes étudiantes qui font en sorte que ça existe parce que ça leur tente. Ça, je trouve que c'est un vrai cadeau de la vie.
Mais l'art et la littérature, ça marche ensemble, ça fonctionne ensemble, l'art et la littérature.
Ben, je veux dire, moi, je pense que la grande littérature est artistique. Les arts sont plus que jamais essentiels dans notre monde, dans l'histoire du monde. J'ai reçu un groupe de danseurs avec une chorégraphe cinéaste de Saint-Jean-Port-Joli, qui sont venus 3 jours aussi pour préparer un film sur le caribou. J'ai animé des ateliers d'écriture. Moi, ça me donne beaucoup de joie d'accompagner, d'animer, d'être le chef scout d'un camp où là, les êtres vont pouvoir vivre, mais sur un mode beaucoup plus proche de ce qu'on a vécu au 19e siècle au Québec, au 18e siècle. Puis ma cabane, il y a un poêle à bois, là, parce que cet hiver, ça prend un poêle à bois l'hiver. Mais je suis fier qu'on n'ait pas encore l'électricité. Ils ont bâti une ligne électrique dans le chemin. On pourrait être électrifié. Mais quelque part, il y a une simplicité obligatoire qui fait en sorte que je suis sûr que ça augmente la qualité d'être. Puis aussi, ce qui n'est pas anodin, c'est que ces étudiantes et étudiantes-là, étudiants-là, me laissent bien comprendre que d'être 48 heures sans signal Wi-Fi, sans cellulaire, sans tablette, sans activité de ce type-là, ça crée une espèce de paix et aussi ça augmente l'intensité de la joie d'être ensemble, de jaser, de marcher. Il y a un mois de janvier qu'on a fait une marche qui a duré 9 heures. C'était un peu trop. Mais ces flots-là, ils ont 20 ans et moi, ça me rend fou de joie d'en faire beaucoup, là. 9 heures, c'est beaucoup. On est revenu à noirceur. Mais quand tu as 20 ans, en général, tu es capable de te taper 9 heures de marche dans le bois.
Mais nous, en toute simplicité, on lit toujours des extraits de Taureau. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en début d'émission. Puis c'est exactement la formule de Taureau. Taureau, c'est sûr que Taureau, des gens pensent qu'il a passé sa vie dans le bois. Il n'a pas passé, mais il a marché beaucoup dans la nature, puis il a vécu une expérience de 2 ans et demi de cabane, le plus isolé, mais quand même tout près du village. Ouais. Mais Pourquoi que Toho a si, il est, ses écrits, c'est des chefs-d'œuvre, c'est qu'il marchait 4 heures par jour dans le bois. Alors, c'est marche dans le bois, écriture, lecture. C'était ça son régime. Ben, ça ne peut pas faire autrement de créer des œuvres magnifiques. Et même, je lisais dernièrement par rapport à l'art, la peinture, c'est Cézanne qui disait pour aller au Louvre, aller dans la nature avant, aller au Louvre, puis retourner dans la nature. C'est comme le peintre va nous apprendre quelque chose de plus, à plus voir ce qu'on... Puis ça va nous permettre de tourner dans la nature, puis avoir un regard encore plus connecté, plus présent. C'est ça que les artistes font, c'est qu'ils nous, ouais. Ils nous rapprochent, ils nous font voir ce qu'on voit pas. Et on a besoin des artistes pour ça.
Mais j'aime beaucoup ça, c'est plus qu'une idée, là, comme là, d'écouter Walden... tiré du disque Walden, là, c'est de Richard Séguin, qui est vraiment un porte-parole de l'esprit de Thoreau. Puis c'est certain que ce que tu viens de dire, le monde de l'art fait en sorte que les musées en ville sont absolument essentiels à ce moment-ci. Je suis pas certain qu'on pourrait faire le musée du Louvre à Chibougamau. Moi, j'aime beaucoup aller à Chibougamau, mais je délire un peu, là, mais... Les liens entre l'activité artistique, l'activité littéraire ou picturale ou musicale, le rapport à la nature, font en sorte qu'il y a comme un va-et-vient de grande qualité, toujours en simplicité relative. On sent que, quelque part, cette idée-là d'aller en nature, d'aller au Louvre voir des toiles et de retourner en nature, c'est extraordinairement sensé. Et il faut plus que jamais y croire. En fait, moi, j'avais jamais pris conscience à quel point l'ajout d'activités littéraires, d'écriture, un camp littéraire de brousse, c'est de faire des ateliers d'écriture avec des gens qui écrivent pas naturellement, mais d'animer, comme moi j'en ai vécu pendant des années avec une écrivaine à Québec, Esther Croft, qui était ma professeure d'écriture. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une activité artistique qui s'ajoute à la joie d'être ensemble, d'être en communauté, d'être dans la simplicité, de manger ensemble, de faire un potluck et de coucher dans des tentes au lieu de coucher dans une maison qui vaut un demi-million et de subir aussi parfois des situations difficiles au point de vue climatique. Mais tout ça avec un surplus de vie qui est lié à l'art. Liés à la poésie en ce qui nous concerne, mais ça pourrait être des camps liés avec des peintres. Puis comme je dis, j'en ai fait un avec un groupe de danseurs, des interprètes, des danseuses là, pour le film qui se préparait. Ça me touche profondément de pouvoir faire en sorte que la cabane que j'ai bâtie ben, serve à ça. En fait, peut-être que au bout du compte, avant même que... Quand j'ai acheté le terrain il y a 30 ans, je me doutais pas que ça pourrait prendre autant de sens. Puis j'ajoute que c'est dans un esprit scout. J'aime beaucoup dire le mot scout, parce que j'ai commencé le scoutisme à 8 ans et demi. Là. Puis il y a un gars, un de mes grands amis qui est psychologue, qui depuis 4 ans est revenu me rejoindre comme assistant chef scout, là, que je vois strictement dans le bois, là, Marc. Puis on était ensemble quand on avait 16 ans puis 18 ans dans les scouts. Il y a un esprit scout que j'aime nommer, qui existe, puis que les flots qui ont 19-20 ans redécouvrent. Puis est-ce qu'on met une croix gammée, pas une croix gammée, mais une croix scout dans le bois? Non. Mais tout ça, c'est lié. Puis évidemment, ben, la cerise sur le sundae, comme tu l'as bien dit, c'est cette activité artistique de fait de créer un texte qu'on va pouvoir garder. Moi, j'en ai soumis à à quelques revues littéraires. J'ai ramassé des textes qui ont été écrits dans le bois. C'est fou. Puis c'est pas moi qui est excité, là. C'est fou la qualité qui est créée ensemble. Il y a comme une force dynamique quand on s'assoit 3/4 d'heure sur un petit pont, même s'il fait 8 degrés, puis qu'on écrit, la qualité de ce qui est produit par les 10, 12, 15 personnes, c'est fou. C'est remarquable. Voici un ajout à l'activité artistique.
tu mentionnais tantôt, je pense aussi que tu as des yourtes hein, sur ton terrain.
Mais pas sur mon terrain, mais la Vallée Bras du Nord est une coopérative de plein air. Puis il y a une vingtaine de yourtes, il y a des cabanes, ils louent des canots. L'hiver, il y a des gens qui font du fat bike. Il y a presque 200 km de pistes cyclables. Les gens louent des canots puis descendent la rivière jusqu'au pont Quentin. Il y a une remarquable activité très, très simple. C'est proche de la simplicité, parce que louer un canot, puis partir en canot, puis faire 8 heures de canot ou 6 heures de canot, voici une activité extraordinairement propre, puis en général géniale. Moi, je descends la rivière en face de mon camp 20 fois par année, puis ce que j'aime, c'est la descendre à la mi-avril, dès que la rivière ouvre, même s'il y a des glaces. Ça me rend fou de joie, là, puis je la descends jusqu'à la fin novembre. Puis c'est est-ce que c'est toujours la même rivière? Non. Une rivière, dans mon livre à moi, même si ça s'appelle toujours Bras du Nord, là, je ne veux pas faire un clin d'œil à Parménide, là, mais c'est jamais la même rivière. C'est que il y a quelque chose d'extraordinaire dans les potentialités. Donc, c'est des amis, là, Étienne Beaumont, entre autres, de Saint-Raymond, qui ont créé la coopérative. Et à l'automne, au mois de septembre, là, il y a des milliers de personnes chaque jour qui vont là la fin de semaine pour marcher, pour... Il y a en dessous du pont qui est pas loin de ma cabane, là, j'ai déjà vu une centaine d'enfants se baigner l'été, là, qui criaient en courant parce que la rivière est pas très haute. Aïe, aïe, il y a quelque chose d'immensément heureux dans l'ordre de la coopération aussi. C'est une coopérative, donc on faut payer un peu pour mettre l'auto dans le stationnement. Mais si quelqu'un n'a pas de sous puis qu'il paye pas, la police ne l'arrêtera pas.
Je mentionnais ça, l'idée de la yourte, parce que les Premières Nations, eux autres, leur maison, les tipis, c'était en cercle. C'était des yourtes ou des tipis. Puis, pour un groupe, je ne sais pas si vous faites ça, mais nous, en tout cas, au comité de Saint-Pitié volontaire, toutes nos activités, on fait ça en cercle.
Toujours.
Puis le cercle, ça, en plus, ça rajoute, c'est qu'au lieu d'être isolé, ça unifie les gens, le cercle.
Toujours.
Il y a comme quelque chose...
Moi, je donne des cours de littérature depuis 22 ans, puis 100% de mes cours, je mets les tables en cercle.
Ah, ouais.
Puis moi, j'ai la chance que la faculté mette un maximum de 20 étudiants. Ah. Là. Mais même quand on était 30, je fais deux cercles. Mais le cercle, l'idée du cercle pour rencontrer, pour faire un feu de camp, pour chanter, pour lire... Pour donner un cours, c'est puissamment important à comparer à cette espèce de salle en rangée. Et c'est vrai que c'est très autochtonien. Et tous les peuples autochtones, presque tous en tout cas, croient à la valeur du cercle. Moi, je comprends. Je refuserais de donner un cours. Je donne des conférences parfois, puis là, s'il y a 200 personnes, ils sont pas tout en rond. Mais quelque part, on sent qu'on pourrait quand même tous s'asseoir quelque part ou faire un cercle. Le cercle, l'idée du cercle, augmente la qualité de l'échange. Puis sans trop être ésotérique, là, il y a des éléments énergétiques, des éléments spiritualistes qui augmentent. En rangée, quand on est assis en arrière, il y a bien plus de chances qu'on décide de regarder sa...
On est isolé.
Son cellulaire.
C'est isolé. Ouais.
Oui, le cercle est fondamental dans le partage.
Puis d'ailleurs, la Constitution américaine est fortement inspirée de la Constitution des Iroquois. Puis c'est pas surprenant que, dans le fond, les Indiens, ils ont peut-être été parmi les inventeurs de la démocratie. Puis je me demande si nos parlements seraient pas plus sains au lieu de se faire face, s'ils étaient pensés en cercle. On aurait peut-être plus de démocratie.
Je trouve ça vraiment intéressant. C'est certain que... Puis oui, ouais, vraiment, comme j'ai jamais vécu un feu de camp, moi, depuis que j'ai 9 ans, là, puis là, je suis rendu à 69 ans, sans que ça soit en cercle. Ça n'existe pas. Un feu de camp dans le bois, en nature, même en banlieue, je sais pas, ils veulent pas beaucoup qu'on fasse des feux de camp, mais sans faire un cercle, sans faire qu'on se réunisse ensemble. Puis aussi... Pendant nos camps littéraires de brousse, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on fait toujours un feu de camp le vendredi soir, puis on en fait un autre beaucoup plus important le samedi après avoir mangé. Si on est 16 ou 14, il y a toujours deux ou trois personnes qui ont plus envie de jaser, d'être dans le feu de camp, mais de pas nécessairement chanter. C'est permis de se tasser, d'être dans le cercle, mais un peu en retrait, pour dire à quelqu'un, là, il faut que je te parle, là, parce que je sais pas, moi, j'ai de la peine. Et c'est pas vrai que tout le monde est obligé de chanter en même temps, là. Il n'y a pas une loi comme ça. Le cercle permet, puis ceux qui sont fatigués aussi, ils ont le droit d'aller se coucher. Il y a comme une permissivité dans l'univers qui est très autochtonien. Moi, j'ai eu la chance de passer ma vie avec des Inuits, des Cris et des Inuits. Là, c'est les Cris et les Inuits, surtout, qui font des feux de camp. Là. Dans le monde Inuit, dans Toundra, il y a moins de beau potentiel. Mais c'est important de dire ça, qu'il y a des règles. Tu n'as pas le droit de hurler puis d'envoyer promener quelqu'un. Mais dans une activité, tu as le droit de dire « je me sens pas bien et là, je voudrais rester couché. Je vous attends. » Et en fait... Mais c'est le cercle qui permet ça. L'idée du cercle, les contraintes obligatoires de dire ça finit à 10 heures, là, si tu pars avant 10 heures, tu vas avoir zéro dans ton cours, là, mais dans ton feu de camp. Non. Je caricature un peu, là, mais voici un moment de retrouvaille de liberté qui a toujours existé, qu'on a peut-être perdu depuis un bout de temps, et que là, la vie en nature permet de retrouver.
D'ailleurs, les Indiens prenaient supposément leurs décisions par consensus. Fallait que tout le monde soit d'accord. Alors, je pense que tu ne peux pas arriver à ça autrement que dans un cercle. Sans ça, c'est une confrontation. C'est que là, à ce moment-là, il faut trancher.
Oui.
Et les autres, ils discutaient en cercle. Mais ils aboutissaient avec un consensus.
Pour connaître le monde autochtone, il faut rajouter, par exemple, puis... qui discutaient longtemps. Puis qu'ils discutaient peut-être longtemps. Puis ça fait partie de l'esprit du cercle. C'est que moi, j'ai la chance de donner des cours de littérature à la faculté de médecine. On lit 6 livres par session, puis on passe 2 fois 3 heures sur chaque livre, mais en discussion. Et là, moi, je suis l'animateur d'une discussion. Et est-ce qu'on vient de régler quand on lit Crime et châtiment de Dostoïevski, est-ce qu'on vient de tout comprendre de Dostoïevski? Non. Mais on a discuté sur le drame de Raskolnikov qui voulait être un bon gars, puis qui tue 2 vieilles femmes pour être un bon gars. Mais voici ça. Il n'y a pas de fin. C'est ça que j'aime profondément et c'est le but de ces rencontres-là.
Mais on va prendre une petite pause musicale, puis après ça, on va revenir pour conclure. Il va nous rester une dizaine de minutes pour conclure.
El galante si marida tan lontan dal suo paese, la pia una scusa giù, l'indoman la chita lì. Alla fa il soldato setani, dopo setani ne riva lì. Ad ai piedi in talla porta della Fiorenza venì dormì. Sua mamma dalla finestra della Fiorenza ie papì. La Fiorenza le sta rubeia dal bel moro sarà sì. Campe nella mia spadina fu nel pugnal d'Arzè. In vaga gire lo mondo e la Fiorenza la troverè. Bel galantare andà la guerra per sé tan naturna pì, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Vai tre lavandere callavamo so fardel in un povo i lavandere ma se c'ama sto castel alle del bel moro nel bel moro sarà sì gli setani che Fiorenza gli setani caiedri
per galantare andare la guerra per sé tanna turna pì e la povera Fiorenza restai senza marì
e il bel moro alla finestra da lontan la vis venì e i densa bella Fiorenza dai un nom del vostro paese feie festa pronta la tavola fei del pane del buon vin di Adisne bella Fiorenza di Adisne cuma per me quan le stai in ita la tavola
pietumba la ninin dal di culaneli dal vetumba ve ale culca spusa mi
bel garantale andala guerra per setanna turna pi e la povera fiorenza le restai senza mari bel garantale andala guerra per setanna turna pi e la povera fiorenza le restai senza mari bel garantale andala guerra per setanna turna pi e la povera fiorenza le restai senza mari.
C'est Andrea Capezzuoli, C-A-P-E-Z-Z-U-O-L-I, Interci, I-N-T-R-C-C-I. C'est un accordéoniste italien que j'ai connu, on peut dire connu, en tout cas que j'ai entendu, au Festival de l'accordéon Montmagny, qui était un beau festival là, qui à chaque année à l'automne, que je vous recommande. Alors, moi, j'aime beaucoup l'accordéon. Alors voilà, Andrea Capezzuoli. Donc, il nous reste quelques minutes pour conclure sur les camps littéraires en nature. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire là, pour conclure, parler de ça?
Ben en fait, en conclusion, je peux dire que comme prof qui a la chance d'enseigner la littérature à la faculté de médecine, je pratique encore la médecine, sûrement que dans ma vie, parmi les plus grandes joies que j'ai vécues, c'est ces camps littéraires de brousse qui me mettent en contact avec 6, 8, 10, 12 étudiants et étudiantes qui ont souvent plus 20 ans, puis 22 ans, puis 25 ans. Mais il y a des fois des gens plus vieux, des fois il y a des amis qui ne sont pas tous en médecine. Et ce que j'ajouterais, c'est que je ne sais pas si dans ma vie, je me suis senti autant en état d'affection ou d'amour, mais un amour agapane, où quelque part, ça me rend fou de joie. J'ai eu 4 enfants, j'espère les avoir aimés assez. Mais là, avec ces flots-là, qui sont comme mes petits-enfants, je ressens un bonheur intérieur et extérieur, brut et raffiné, grâce à la littérature. Je ne pense pas que ça m'arriverait. Puis là, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de remercier ceux et celles qui ont envie de vivre ça. C'est que c'est comme un cadeau qui m'était fait. Puis en même temps, j'ose dire que je prends conscience que les arts, tous les arts, mais l'art littéraire, finissent par... Puis là, c'est presque un lieu commun que je vais dire. Depuis l'invention des humains sur Terre, là, depuis la préhistoire, c'est certain que les humains ont senti la nécessité des arts. Mais si on met pas si on n'insiste pas sur cette activité artistique, comme le monde dans lequel on est, qui a tendance à déifier l'intelligence artificielle, c'est un monde devenu extrêmement dangereux si on perd contact avec les arts et, évidemment, cette nature sauvage. Et plus elle est sauvage, plus elle est pure, plus la rivière est propre où on peut boire l'eau. Boire l'eau, la rivière Bois-du-Nord, c'est... même, je le dis, moi, là, il n'y a aucun danger de boire cette eau-là, là. Peut-être qu'une fois dans 8 ans, on va attraper un parasite là, à cause du castor, mais c'est sérieux. Le simple fait de savoir que les eaux au nord du fleuve Saint-Laurent, au Québec, sont en général extraordinairement propres, c'est quand même, voici encore une qualité qui reste dans notre pays. Il faut préserver ça. C'est que je finirai avec ça. Donc, la vie en nature, en dehors aussi d'un monde dominé par les écrans, le web, une espèce de folie qui vont s'accentuer autour de cette foi en l'intelligence artificielle, non, l'intelligence d'une grenouille, l'intelligence d'un chevreuil, comme là, il y a des dindons sauvages là, au nord de Saint-Raymond là, ces années-ci. Voir un troupeau de dindons sauvages dans le bois, aïe aïe, ça, je trouve ça hallucinamment.
C'est très beau.
Ouais.
En passant, on en a parlé en début d'émission du Bonheur intérieur brut, là, la série d'Hugo Latulippe. Et tu me disais qu'il est venu tourner là, dans
ouais,
ton
camp. Oui, il est venu tourner il y a quelques années. Et là, tout à coup, il m'a prévenu là, le 12 mars, mardi à 8h à TV5. Il y a le 7e épisode sur la santé du corps. Et ce qui ce qui me rend totalement là, émotif, c'est de voir mes étudiants dans le bois écrire. Puis là, on voit et on entend lire des textes par deux étudiantes qui sont assis en avant de la cabane. Ben là, il faut que je remercie Hugo Latulippe, parce qu'il m'a prévenu que ça aurait lieu. Là. Mais cette série-là, Le Bonheur intérieur brut, c'est extraordinairement proche de l'esprit et de la simplicité volontaire. Oui. Et il y a des propos là-dedans, comme par Mathieu Ricard, qui fait la différence entre l'empathie et la compassion. Plus que jamais, il faut parler de ces sujets-là. Sinon, les dangers de sombrer dans un monde avalé par la science, la seule technoscience délirante, sont grands.
Oui, c'est ça.
C'est disponible là, en ligne. On peut la visualiser, la visionner.
On peut la visionner. On peut visionner cette série-là.
La série, c'est chaque mardi à TV5 là, à 8h. Mais Hugo, avec son producteur, là, Tapis Rouge, ont réussi quelque chose d'un peu exceptionnel, d'exceptionnel, à cause aussi de la thématique. Il y a quelque chose de lent et de pas habituel pendant une heure de voir des flots au Brésil jouer au football, puis d'entendre les propos de Mathieu Ricard, d'aller au Bhoutan voir un moine bouddhiste prier puis se mettre à rire comme un fou. Là. En tout cas, il y a un esprit spiritualiste évident qui sous-tend cette série-là, qui est essentielle.
C'est drôle parce que il a commencé avec la course autour du monde, la fameuse série télévisée des années 90, ouais, que j'adorais, que je ratais jamais. Puis il y a Denis Villeneuve, le, ouais, grand cinéaste, ouais, qui était là, dans cette course-là.
Ouais.
Il y a Ricardo Trogi aussi qui, ben, était, ouais, dans... Il y en a beaucoup là, qui sont devenus, ben, des, ouais, grands cinéastes.
Moi, j'ai un grand ami, un médecin du Grand Nord, là, François Prévost, qui a fait un film avec Hugo. Là. Hugo était co-réalisateur, là. Ce qu'il reste de nous, qui se passe au Tibet. Et qui fait, en tout cas, c'est un vrai chef-d'œuvre. Il avait gagné beaucoup de prix, mais en tout cas, voici toute une série. En tout cas, cette période-là a permis de mettre au monde des réalisateurs vraiment importants. Là. Mais il faudrait peut-être te remettre ça. Mais en tout cas,
j'étais bien fait de quoi quand ils l'ont arrêté. C'était beau, ça, ouais, c'était beau à voir.
J'oserais dire, moi, que j'ai quelques étudiants, mais qui viennent d'un camp littéraire de Brousse, qui sont en médecine, qui ont d'extraordinaires qualités et potentialités d'écrivaine, à bien des points de vue. Moi, j'ai une étudiante que j'ai connue à 19 ans, qui est devenue psychiatre, qui s'appelle Wanessa Younsi, qui vient à Montréal, qui a deux enfants, qui a publié des recueils de poésie. Il y a un essai que je fais lire depuis 10 ans, qui s'appelle « Soigner aimé », aïe aïe. Mais là, je suis fier comme un ancêtre, parce que là, je l'ai eu comme étudiante, et elle est pratique, elle est psychiatre, mais une remarquable écrivaine, là, c'est que ce lien entre la pratique médicale et la création littéraire, il ne faut pas l'oublier.
Puis, pour terminer, pour ceux que ça intéresse, il y a une très belle exposition de peinture au Musée des Beaux-Arts présentement. Là, si on veut faire, justement, on a les plaines de la nature pas loin, on va prendre une petite marche dans la forêt, un peu plus bas, puis après ça, on va voir l'exposition, ça fait une belle activité. Ça fait deux fois que je vais, c'est magnifique. Alors, ben merci beaucoup, Jean.
C'est moi, ça a été vraiment plaisant.
Puis, on va sûrement te réinviter en toute simplicité. Alors, ben bonne journée, bonne semaine.
Bonne journée, Jean.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous. Actualité locale, enjeux sociaux, culture, sport, politique, prenez le pouls de votre ville chaque matin en ma compagnie et celle de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Faites la connaissance de gens d'ici qui travaillent sur le terrain pour faire